Voilà, bonsoir. Nous avions donc parcouru à grandes enjambées cette partie intitulée « Das religiöse Wesen » portant sur la religion. Nous n'avons pas évidemment vu tous les textes importants concernant la religion, mais il me semble que nous en avons vu des points essentiels que je rappelle, au moins ceux dont je retiens, puis nous pourrons ouvrir une petite discussion si vous le souhaitez. Bon, je crois qu'il est important de noter que Nietzsche a toujours porté la plus grande attention à cette religieuse Wesen, et en particulier au christianisme, et donc ce n'est pas du tout un philosophe qui a réglé son compte, pourrait-on dire, une fois pour toutes, à l'attitude religieuse, et en particulier au christianisme, mais qui, jusqu'à la fin de sa vie, puisqu'à la fin de sa vie, il va même signer dans les billets de folie Jésus-Christ lui-même, il reste jusqu'au bout en débat, en discussion, en opposition avec le christianisme. C'est-à-dire par conséquent que l'on a affaire à un homme dont l'intérêt pour la chose religieuse, das religiöse Wesen, n'est pas anecdotique, temporaire, mais a été continu. Ça nous en dit beaucoup sur lui-même, et je vais y revenir dans un instant. Alors, la deuxième chose sur laquelle je reviens d'un mot, c'est que si l'on voulait centrer son analyse et sa critique, on pourrait dire que est essentiel le concept de volonté de croyance, Willen zum Glauben. J'avais signalé, je rappelle à nouveau, qu'en allemand, on n'a pas de distinction entre croyance et foi, du moins pas comme nous l'avons en français, et que par conséquent, la volonté de croyance désigne un ensemble d'attitudes qui sont liées à une volonté de savoir à quoi s'en tenir. C'est la volonté de certitude, finalement, de savoir à quoi s'en tenir, s'accrocher à quoi que ce soit qui vous permette de tenir debout. Donc, à la fois, la volonté de croyance dérive d'une volonté, ce n'est pas d'abord un entendement, une raison, une compréhension, c'est un vouloir qui s'enracine au plus profond de l'individu qui veut vivre, et c'est une volonté de savoir à quoi s'en tenir. Nous avions noté encore, ce serait une troisième remarque, que cette volonté de croyance, du coup, n'est pas propre à ce qu'il appelle les homines religiosi, ou du moins que les homines religiosi sont très nombreux et constituent toute une hiérarchie. Autrement dit, la volonté de croyance, elle peut aussi bien atteindre l'artiste que le militant politique ou syndical, et par conséquent, elle est d'une certaine façon intrinsèque à la volonté humaine. On ne peut pas se passer de la volonté de croyance. Ce qui veut dire que, bien entendu, il y a plusieurs façons de se rapporter à la volonté de croyance. Et nous retrouvons ici une distinction sur laquelle nous allons réfléchir à nouveau, entre la volonté faible et la volonté forte. La volonté faible est celle qui a besoin de la croyance pour subsister, donc chez laquelle la croyance est un garant de sa propre survie. Et au contraire, la volonté de croyance dans une volonté forte est celle qui, justement, sait se jouer de la croyance pour exister. Elle n'est pas subordonnée, cette volonté noble, à la croyance. Elle est au contraire ce qui lui permet de jouer, de vivre, mais elle n'est pas fixée sur elle. Cela veut dire par conséquent, et j'entendais pas plus tard qu'à midi sur France Culture une énorme bêtise, par conséquent, il ne faut pas en conclure qu'une volonté forte n'aurait plus de volonté de croyance. Pas parce qu'on dit le faible, évidemment, c'est le religieux, mais si on avait une volonté forte, on aurait plus de croyance. Ça, on peut toujours dire ce propos, mais en tout cas, il n'est pas nietzschéen. La volonté de croyance est aussi bien chez le fort, nous l'avons vu l'autre jour, la foi en soi définit l'aristocrate, il croit en lui-même. Et c'est une forme de croyance. Donc, par conséquent, la volonté de croyance n'est pas transitoire, elle n'est pas liée simplement à une faiblesse. Il y a une volonté de croyance possible aussi et nécessaire dans la volonté noble ou dans la volonté forte. Au fond, la grande question nietzschéenne, c'est de savoir qu'est-ce qu'on cherche quand on s'appuie sur une croyance. Quelle est la volonté, on pourrait dire le désir, si vous voulez, qui anime. Est-ce que c'est une façon de s'abriter dans la croyance ou une façon d'accepter la vie et d'en vivre? Voilà. Donc, la croyance n'est pas propre à l'homines religiosi. Dans les homines religiosi, évidemment, Nietzsche donne une place particulière à la tradition chrétienne, et je vais rappeler très rapidement sa position, qui tient en particulier, évidemment, dans plusieurs aspects, mais en particulier dans une distinction forte entre le message de Jésus, qui est la bonne nouvelle, et le message de saint Paul, qui est la mauvaise nouvelle, Deus Evangelium, puisque alors que Jésus demande un oui inconditionnel et évidemment naïf à la vie, saint Paul subordonne la vie à la mort et à la cèse. Donc on obtient la vie à condition de. Donc cette subordination constitue le christianisme paulinien et aux yeux de Nietzsche, en gros, le christianisme des églises. Ceci étant posé, il faut encore ajouter qu'aux yeux de Nietzsche, cette religion paulinienne ne peut que se détruire elle-même. J'avais parlé l'autre jour de l'euthanasie du christianisme, Selbstaufhebung, qui n'est pas à comprendre au sens hegelien de dépassement de soi, ça c'est un texte du Gai Savoir, Selbstaufhebung, mais comme un auto-effondrement. Là, les textes seraient à nouveau dans le Gai Savoir, mais en deux mots, la cribie chrétienne qui conduit par ascèse le chrétien à s'examiner lui-même, le pousse évidemment à l'esprit critique. Et cet esprit critique, un beau jour, ne reste pas lié à l'intériorité, combien ai-je fait de péchés, combien de fois, etc., mais va se déguiser en interrogation scientifique, en curiosité scientifique. Et cette curiosité scientifique va elle-même se tourner contre le dogme. C'est-à-dire qu'un beau jour, la morale chrétienne se détruit le dogme, c'est-à-dire que le croyant ne peut plus croire à ce qu'on lui a inculqué. Nous avons vu l'autre jour les attributs du Dieu Père, la Providence, le Dieu Bon, etc. Ce qui veut dire que le christianisme paulinien s'auto-détruit, mais vous voyez tout de suite que la morale reste en place. D'une certaine façon, la culture chrétienne sans le dogme reste en place, et c'est ce qui habite l'éthos européen, ce que nous allons revoir dans quelques instants, sur la morale ou les morales européennes. Bon, là, ce que nous n'avons pas vu ici, mais qu'on peut quand même indiquer, c'est que la disparition de la référence religieuse laisse évidemment l'homme européen dans un énorme désarroi. Et la mort de Dieu, par conséquent, n'est pas pour Nietzsche un signe de victoire. Alors, la mort de Dieu, nous n'avons pas trace dans par-delà et bien le mal, donc dans le texte qui nous occupe. Je vous renvoie au texte bien connu du Gai Savoir, le paragraphe 125 en particulier, et le paragraphe 343. Mais ce que nous avons dit explique ce slogan, parce que c'est quand même devenu un slogan de la mort de Dieu, à savoir que c'est évidemment pas la critique nietzschéenne qui a détruit Dieu dans les esprits européens, c'est le christianisme lui-même qui a fini par rendre incroyable sa propre croyance. Nous avons tué Dieu. Nous, Européens, nous, chrétiens européens, nous avons tué Dieu. Nietzsche se contente, si je puis dire, de constater le désastre, car c'est évidemment un désastre. Donc c'est une autodestruction du Dieu chrétien. Dieu chrétien devenu incroyable. On ne peut plus reconnaître Dieu. On ne peut plus reconnaître, comme il le dit quelquefois, le divin dans cette présentation d'un Dieu trop bon, paternel, compatissant, miséricordieux, provident, qui dirige l'histoire personnelle et collective. On ne peut plus rentrer là-dedans. Donc cette destruction, cette mort de Dieu n'est pas le résultat d'une critique philosophique de la part de Nietzsche, il la situe à l'intérieur même du christianisme. Ça, je crois que c'est un point capital et qui n'est pas toujours bien vu. À quoi il faut ajouter encore, ça serait le paragraphe 343 du Gai Savoir, que cette mort de Dieu n'est pas non plus pour Nietzsche une victoire, nécessairement. On peut même dire qu'à ses yeux, c'est une catastrophe. De ce point de vue-là, on est loin de la philosophie d'un Voltaire, ou d'un Condorcet, ou d'un Diderot, n'est-ce pas, selon laquelle, en sortant de la religion, nous sommes sortis d'un temps d'obscurantisme, d'infantilisme, d'ignorance, de ténèbres pour accéder à la lumière. Alors la raison, aux yeux de Nietzsche, en est simple, c'est que à partir du moment où les masses, et là, nous allons voir encore un grand souci, des masses européennes n'ont plus de référence ultime pour orienter leur vie, et pour comprendre le sens de leur existence. Que va-t-il se passer? Eh bien, la volonté de croyance dans ces masses n'en reste pas moins active. Mais à partir du moment où elle ne peut plus se fixer, si je puis dire, sur la croyance en Dieu, elle va errer sur toute espèce d'idole. Et je vous rappelle qu'un des derniers livres de Nietzsche s'appelle « Le crépuscule des idoles ». Et il dit même dans ce texte, d'ailleurs très intéressant, « Au fond, dans le monde, il y a plus d'idoles que de réalité. » Dans le monde moderne, il y a plus d'idoles que de réalité. Donc, les hommes vont s'investir sur la société sans classe et sans État, sur des espérances politiques, sur la sexualité, sur la recherche du sexe, sur... Voilà. Et Nietzsche a tout à fait peur, en effet, que ce qui triomphe, c'est le non-sens, c'est-à-dire le nihilisme. Le nihilisme. Et donc, pour lui, l'effondrement du christianisme n'est pas du tout une heureuse nouvelle. C'est même une catastrophe. Est-ce qu'il sera possible à la masse de ne pas s'effondrer sous le coup du nihilisme? Alors, seuls quelques-uns qui seront capables de vouloir la vie sans réticence pourront s'en tirer, mais ceux-là sont évidemment tout à fait rares. Alors, dernier point avant de vous laisser la parole, nous aurons l'occasion d'y revenir. J'ai bien signalé à l'instant, en parlant de la mort de Dieu, que c'était la mort du Dieu personnel. C'est les attributs de Dieu. Le premier athée, ça se trouve dans le Zarathoustra, c'est le Dieu du Sinaï. N'est-ce pas? C'est un texte étonnant. Le premier athéisme, c'est l'athéisme du Sinaï, c'est Moïse. C'est le Dieu qui prétend qu'il est seul. Moi, seul est Dieu. Tous les autres sont des idoles. Alors ça, c'est une prétention que Nietzsche trouve parfaitement ridicule. Et d'ailleurs, dans le texte de Zarathoustra, les dieux rient quand ils entendent le message du Sinaï. Parce que fondamentalement, le divin est pluriel, n'a pas de nom, n'a pas de personne. Alors, il est important de remarquer que la disparition du Dieu chrétien, enfin son effacement des esprits, ne signifiera pas pour autant la disparition du divin, mais peut-être au contraire, ce qu'il appelle dans des textes posthumes permettra la résurgence du divin. Donc, nous reviendrons là-dessus quand nous parlons de Dionysos. Mais je crois que c'est important de le dire dès qu'on parle de la mort de Dieu, pour bien voir que l'athéisme de Nietzsche n'est pas l'athéisme tranquille d'un Voltaire qui dit, bon, on en a fini avec Dieu, bon débarras, restons tranquilles, cultivons notre jardin, aménageons la société et ce sera parfait. C'est pas du tout le point de vue nietzschéen, et encore une fois, on voit bien évidemment sa dépendance de Schopenhauer et d'une vue quand même plutôt sombre sur l'humanité. Donc, on n'est pas débarrassé pour autant de la volonté de croyance qui va pouvoir se porter sur tout et n'importe quoi. Et on peut bien voir, en effet, dans nos actualités, la folie des hommes qui se portent sur n'importe quoi et qui, au nom de cette volonté de croyance à tout prix, sombrent dans la barbarie. Voilà ce que je voulais rappeler. Avant que nous passions à la suite, sans doute avez-vous, sur cet ensemble trop rapidement parcouru, des interrogations, des demandes de précision pour autant que je puisse les donner. Oui. Pour les paysans, oui. Oui. Ah oui, parce que ça tient les paysans tranquilles. Ça tient les travailleurs tranquilles. Oui, mais ça, c'est exactement ce que Marx va dénoncer. L'opium du peuple. N'est-ce pas? Ben, sauf que pour lui, les masses vont peu à peu perdre, n'est-ce pas, leur confiance dans les églises. Mais elles vont trouver d'autres substituts. Voilà le problème. Elles vont trouver d'autres substituts. Alors elles croiront au Parti communiste, elles croiront à la bourse, elles croiront à la sexualité, ou elles croiront en rien. Voilà le culte du négatif. C'est tout ce qui... Enfin, le nihilisme, c'est ça. C'est l'exaltation du rien. Ce qui conduit, alors, comme il le dit, à la drogue, au règne de la drogue, ça il le dit explicitement. Toute espèce de vertige. Tout vous paraît clair? Bon. Alors, si vous voulez, nous allons... On ne tourne pas vraiment la page du phénomène religieux avec Nietzsche, mais nous allons plutôt nous arrêter maintenant dans la suite sur sa position concernant la morale. Parce que la réflexion sur le devenir historique de la religion ou l'avènement de l'athéisme, au sens que Nietzsche lui donne, donne le contexte, me semble-t-il, de la réflexion nietzschéenne sur la morale. Et je crois qu'en effet, sans ce cadre que nous avons rapidement vu de l'histoire européenne, de l'histoire et à ses yeux de l'effondrement du christianisme, seul ce cadre permet, me semble-t-il, de comprendre, s'il est possible de les comprendre, ses positions sur la morale. Car dans les pages qui suivent notre texte, donc dans la cinquième, sixième et septième partie, nous avons affaire à une réflexion sur les conditions de la vie sociale en général, donc pas seulement de la morale au sens étroit du terme, et c'est un point tout à fait frappant et singulier, que la réflexion sur la morale va de pair avec une réflexion sur les conditions de la vie sociale en général et sur la société occidentale elle-même dans son histoire. La réflexion nietzschéenne sur la morale ne se sépare pas de cette réflexion sur l'Occident et sur un devenir historique. En ce sens-là, cette pensée qui paraît si tranchée, si individualiste, ne va pas sans une réflexion sur l'histoire. D'ailleurs, à ses yeux, la généalogie, ce qu'il appelle la généalogie, comporte pour une part une réflexion sur les origines historiques, des valeurs, des croyances, etc. Alors, une de ses grandes idées, c'est que la morale que l'on conjugue en général au singulier, n'est pas et ne peut pas être partout la même, parce que l'homme et les conditions d'existence de la vie humaine en collectivité ne sont pas et ne peuvent pas être partout les mêmes. Mais, là je résume à grands traits pour donner une idée de l'ensemble, mais l'illusion ou l'erreur de l'Européen, c'est de croire qu'il n'y a qu'une seule morale, à savoir la sienne. Et donc Nietzsche prétend que sa propre position est tout à fait originale, en ce sens qu'il serait le premier à poser la question morale. Alors évidemment, au premier abord, on se dit, mais ça ne va pas, la tête ne va pas, parce que tout de même, depuis qu'il existe des hommes, il réfléchit sur la morale, et donc il est un peu difficile de comprendre ce qu'il veut dire. Mais si on lit par exemple le paragraphe 186, le premier de la cinquième partie, il s'appelle donc, en français ils ont traduit « contribution zur Naturgeschichte der Moral en vue de, zur, en vue de, d'une histoire naturelle », nous verrons ce mot de naturel tout à l'heure, de la morale. Alors, si on prend ce paragraphe 186, je ne suis pas absolument sûr de tout à fait bien le comprendre, Nietzsche indique que ce qui a toujours fait défaut, je prends à peu près à la moitié de ce texte, par une étrange anomalie, donc il reconnaît qu'il y a quelque chose d'étrange, ce qui a toujours fait défaut à la science de la morale, c'est-à-dire à la connaissance de la morale, je ne prends pas le mot science, évidemment, au sens tout à fait contemporain du terme, c'est le problème même de la morale. On n'a jamais soupçonné qu'il y avait là quelque chose de problématique. Voilà, argument tout à fait étrange, affirmation je dis, tout à fait étrange. Ce que les philosophes ont désigné du nom de fondement de la morale, c'est une expression qu'il emprunte à Schopenhauer, qu'il va citer dans un instant, et qu'ils sont cru obligés de fournir, n'a jamais été, si on y regarde de près, qu'une forme raffinée de la foi, Glauben, naïve dans la morale établie. C'était présenté comme une donnée, une morale déterminée. Et même, en fin de compte, une manière de nier que l'on eût le droit d'envisager cette morale comme un problème. C'était dans tous les cas le contraire d'un examen, d'une analyse, d'une mise en doute, d'une vivisection de cette foi. Alors on se dit, mais à quoi pense-t-il? Quelle est cette morale? C'est la morale kantienne? C'est la morale... Ben, il me semble que la suite donne une clé qui ne nous surprend pas. Écoutons par exemple avec quelle ingénuité presque vénérable un Schopenhauer définit encore sa tâche et tirons les conclusions qui s'imposent touchant le sérieux d'une science dont les plus récents meurtres parlent encore comme des enfants ou des vieilles femmes. Et il cite justement Grund Problem der Moral, le fondement de la morale, petit texte, enfin un assez grand texte de Schopenhauer. Le principe, donc il le cite, sur le contenu duquel tous les moralistes sont en somme d'accord, neminem laede, donc ne nuire à personne, immo omnes, quantum potes, et même dans la mesure où tu le peux, il faut les aider. Tel est le véritable principe que tous les moralistes s'évertuent à fonder, c'est toujours Schopenhauer, tel est le véritable fondement de l'éthique que l'on cherche depuis des millénaires, comme la pierre philosophale. Donc voilà, ce que Nietzsche tient comme la morale indiscutable, qui va de soi, c'est la morale, au fond, de l'amour du prochain. Ne pas léser autrui, on pourrait dire presque la règle d'or. Si ne fais pas autrui, il ne faudrait pas qu'il te fasse. Et même au contraire, aide ton prochain. Bon, c'est cela qu'il tient pour la morale que l'on n'a jamais discutée. Or, la morale, précisément, cette morale-là pose problème, parce que on évite, en cherchant un fondement à la morale, de poser à nouveau le problème de la volonté qui veut la morale. Qu'est-ce qu'on veut au juste quand on veut la morale? Et donc, à l'idée fausse, selon Nietzsche, de chercher un fondement de la morale, il faut substituer une typologie de la morale. Je lis le presque début de ce texte. « Il conviendrait de se l'avouer en toute rigueur, ce qui nous manque pour longtemps encore, ce qui pour le moment doit nous retenir l'exclusion du reste, c'est de rassembler le matériel. » Voilà, l'idée qu'il faut, avant de réfléchir à la morale, enquêter sur les mœurs des peuples, etc., ce que Nietzsche, évidemment, n'a jamais fait, mais qu'il voulait faire. Bon, c'est de rassembler le matériel, de définir et d'ordonner l'infinie multiplicité des sentiments de valeur et de leurs subtiles nuances en continuelle métamorphose, et peut-être mettre en lumière les formes les plus fréquentes de ces cristallisations vivantes, afin de préparer une typologie de la morale. Il est vrai que personne n'a encore été assez modeste pour entreprendre une telle tâche, et évidemment le seul personnage modeste qui est capable de l'entreprendre, c'est évidemment Nietzsche lui-même. Alors, cette typologie de la morale veut dire qu'il y a des types de morale qu'il ne faut pas confondre entre elles. Il n'y a pas qu'une morale, il y a plusieurs façons de se donner des valeurs. Et on retrouve tout de suite, il n'y a pas tellement de mystère, la double typologie entre la généalogie asservissante, esclave, et la généalogie noble. Voilà, donc il y a en toute valeur cette double typologie à détecter. Est-ce que l'on a affaire à une valeur vécue dans une volonté de s'asservir ou dans une volonté de noblesse? Donc la grande idée, c'est que les morales peuvent varier, mais ce qui est intéressant dans leur contenu, ce qui est intéressant, c'est de se demander ce qui se cache sous les valeurs. Quelles sont les... Voilà. Parce que finalement, la morale, c'est-à-dire les valeurs qu'on se donne pour vivre, recherche de la justice, recherche de l'aide à autrui, etc., recherche de la paix, ça n'est jamais qu'une réponse humaine aux défis posés par la vie. Une réponse humaine aux défis posés par la vie, et en particulier par la survie de l'espèce. À quelles conditions peut-on survivre? Et peut-on vivre? À quelles conditions peut-on exercer la volonté de puissance? Or, comme ces conditions de survie changent selon les sociétés, il est évident que les valeurs elles-mêmes vont changer. À quelles conditions, par conséquent, et voilà à quoi répond la morale, ou le deuxième moral, les hommes d'une société donnée peuvent-ils exister de manière positive et créatrice? Et ils le font en se donnant des buts. Des buts. Je vous renvoie un très grand texte d'Ainsi parlait Zarathoustra qui s'appelle « Des mille et un buts ». Nietzsche ne renonce pas à donner des buts, contrairement au contresens qu'on fait sur lui. Simplement, dit-il dans ce grand chant du Zarathoustra, les hommes se sont donné 1000 buts jusqu'à présent. Ils ont voulu la guerre, ils ont voulu le commerce, ils ont voulu le succès, ils ont voulu la jouissance, etc. Mais il y a toujours un but qui a manqué aux 1000 buts qu'ils ont poursuivis, à savoir la volonté de soi-même, la volonté d'être créateur. Bon, on reviendra là-dessus, c'est-à-dire la volonté noble, la foi en soi-même. Voilà, donc la morale, c'est cette tentative de se donner des finalités qui vous permettent de surmonter les conditions d'existence, et donc de vivre. Alors voilà, où on se donne des valeurs qui vous écrasent, servitude, servilité, où on se donne des valeurs qui vous exaltent et qui peuvent vous permettre d'être créateur. Voilà, me semble-t-il, l'horizon sur lequel ces pages s'inscrivent. Alors, je dirais, comme on ne va pas prendre tous ces textes, ils seraient trop nombreux, je vais les organiser, si vous voulez, en trois moments. Je voudrais d'abord restituer ce contexte large, social, historique, et qui ne part pas de l'individu d'abord. L'individu, aux yeux de Nietzsche, n'est qu'un produit tardif, mais qui part de l'espèce comme telle, l'espèce humaine comme telle, pour en analyser ce que je viens d'appeler les conditions de survie, les conditions de sa survie. Et nous regarderons ici en particulier, dans un instant, l'aphorisme assez long, 262. Une espèce naît, etc. C'est une approche qui nous montrer qu'il n'y a pas de morale sans contrainte, sans discipline, et que par certains côtés, Nietzsche n'ayant pas peur des mots, la morale est toujours une tyrannie. Paragraphe 188. Et que la nature dont il est question impose la discipline. Voilà, ça sera, disons, un premier volet. Deuxième volet, si je puis dire, cette morale de la tyrannie, mais en réalité de la maîtrise qui passe par la discipline, s'est surtout développée dans ce qu'on pourrait appeler des contextes de rareté, d'obstacles, dans des conditions géographiques, économiques, difficiles, où l'humanité a dû se battre pour survivre. Aux yeux de Nietzsche, l'histoire de l'humanité est une histoire d'un combat, presque toujours perdu, mais pas toujours, contre les divers obstacles de nature. Rappelez-vous ce texte, la nature est exploitation, etc. Là, on n'est pas dans un contexte rousseauiste où la nature gentille nous offre tout ce qu'il faut pour vivre et nous n'avons plus qu'à cueillir les fruits et pêcher les poissons, les rivières. On est plutôt dans une perspective d'hostilité de la nature, on pourrait dire dans la ligne plutôt de Hobbes et peut-être d'un certain côté de Luther. Donc, jusqu'à présent, les sociétés humaines se sont bâties et donc ont élaboré leur morale dans un contexte d'obstacles. Et par conséquent, elles ont tout à fait compris la nécessité de la discipline. Quand on est menacé par des conditions extérieures, évidemment, le groupe social se rassemble autour de normes impératives, hors desquelles, évidemment, la société se dissoudrait et ce serait le chaos ou la mort qui l'emporterait. Mais cette morale-là n'est plus la nôtre. La modernité, et la morale de la modernité, la morale moderne, se caractérise tout autrement par le règne du troupeau, et nous regarderons à nouveau le paragraphe 200, pas à nouveau, nous regarderons le paragraphe 202, très sévère sur la morale démocratique qui est la morale de l'égalitarisme et du troupeau, c'est-à-dire la contrainte disparaissant ou s'atténuant, eh bien l'égalitarisme l'emporte, et surtout le règne de l'individu. L'individualisme prend le dessus sur la totalité, sur ce que les anthropologues appellent le holisme. Cette évolution, aux yeux de Nietzsche, est une dégénérescence. C'est une décadence, pour employer le mot que nous aurons à examiner. Et cette dégénérescence, elle a sa source dans le soulèvement des esclaves en morale. C'est-à-dire, à la fois, elle a une source juive, et elle a une source chrétienne. Je rappelais l'autre jour que le succès du christianisme dans l'Empire romain découle de la prédication de saint Paul expliquant aux esclaves que c'était eux les élus de Dieu. Élus de Dieu, tradition juive, élus des faibles, des pauvres, des laissés pour compte, tradition chrétienne. Eh bien, c'est cette morale, c'est ce soulèvement des esclaves qui se croient les plus forts qui est à l'origine de la morale moderne et de sa décadence. Alors nous regardons un petit peu ce qu'il dit des Juifs, puisqu'on l'accuse souvent d'antisémitisme, avec le paragraphe 195, et j'en citerai à ce moment-là d'autres. Bon, alors, troisième versant, ce retournement de la morale aristocratique, de la morale des sociétés holistes, pour parler un langage qui n'est pas le sien, des sociétés de la tradition, ce retournement par l'esclave va appeler lui-même son autodestruction et son analyse, va permettre en effet qu'on comprenne la nécessité de la typologie. Et en ce sens, Nietzsche pense que c'est seulement dans une société moderne où la contrainte s'était desserrée qu'une analyse distanciée et critique de la morale, celle qu'il propose, est possible. Parce que dans une société traditionnelle, on ne discute pas des valeurs, elles s'imposent. Celui qui la discute, il est déjà un ennemi de la société. Donc pour pouvoir discuter la morale et pouvoir faire une typologie, encore faut-il précisément que la contrainte se soit desserrée. Et ça, c'est caractéristique de la modernité. Alors nous aurons l'occasion de regarder cette typologie, puisque la morale, comme je l'ai déjà dit, peut être voulue soit de manière noble, et à travers elle on peut vouloir la vie, soit de manière esclave, et donc c'est une typologie qui va au-delà d'un bien et d'un mal déterminé. Nous retrouvons les premiers propos que nous avons vus. Et là, nous arrêterons à ces beaux paragraphes, qui sont les paragraphes ou les aphorismes 259 et 260, et un peu aussi le paragraphe 225. Je vous les donne pour que vous les consultiez si on ne les voit pas aujourd'hui. Donc voilà, trois moments, disons, dans cette analyse de la morale. Donc, vous voyez déjà, d'ailleurs, que Nietzsche ne dit pas « l'homme n'a pas besoin de morale ». Mais de quelle morale s'agit-il? Est-ce une morale qui permet à la volonté de puissance de s'exercer, c'est-à-dire qui permet de vivre de manière noble et créatrice, ou est-ce que c'est une morale qui vous écrase? Morale de servitude. Donc, il ne s'agit pas de dire « on n'a plus de morale, on balaye tout ça, c'est des sottises, n'est-ce pas? Nous sommes des gens libres et nous décidons par nous-mêmes. » Non, ça, c'est pas du tout, je crois, c'est pas du tout Nietzschéen. On peut le lui faire dire, mais je crois que c'est pas ce qu'il dit. Alors, on va s'arrêter, si vous voulez, à ce paragraphe assez long, 262, que vous avez peut-être déjà lu, si vous avez préparé cette séance. Bon, je lis ce que j'appellerais pas tout à fait une première partie, enfin, au moins les premières lignes. Une espèce a une art, un type. Donc, faire attention, le mot espèce peut nous donner à croire qu'il s'agit d'une espèce biologique, une espèce art, un type d'homme. Bon, gardons le mot espèce. Ein Art entsteht, ein Typus, un type. Voilà, c'est là que les traductions nous trahissent. Un type se fixe et se fortifie à travers le long combat qu'il soutient contre des conditions à peu près uniformément défavorables. Inversement, l'expérience des éleveurs nous apprend que les espèces qui reçoivent une nourriture plus qu'abondante et sont l'objet d'un surcroît de soins et de ménagements tendent aussitôt à s'éloigner très fortement de leur type en produisant un grand nombre d'anomalies et de monstruosités. Donc Nietzsche nous dit, n'est-ce pas, les deux parties que j'ai dites, c'est d'un côté les contraintes, et puis quand des contraintes se défont, monde moderne, eh bien on a toute espèce de monstruosité qui se développe. C'est la thèse qu'il va défendre dans cet aphorisme. Hein. On a besoin de conditions défavorables qui permettent à un type d'homme de se déterminer et de se fortifier. Et inversement, quand les conditions sont trop favorables, société moderne, abondance, etc., les choses se délitent. Considérons maintenant, donc on pourrait dire c'est le début proprement du texte, considérons maintenant une communauté aristocratique. Le mot ici, c'est en effet aristocratisches Gemeinwesen, une communauté aristocratique, une cité de la Grèce antique, ou Venise, par exemple, comme une institution, volontaire ou non, ayant pour but la Züchtung, le dressage de l'espèce humaine, art, à nouveau. On y trouve côte à côte des hommes livrés à eux-mêmes qui veulent faire triompher leur espèce, le plus souvent parce qu'ils y sont obligés, s'ils ne veulent pas courir le risque d'être exterminés. Les soins, la surabondance, les protections qui favorisent la diversité n'existent pas. donc cette société de la contrainte où il ne s'agit pas de jouer la carte du pluralisme. Mais il faut qu'on soit tous d'accord pour se battre contre des adversaires qui peuvent être simplement des situations climatiques ou géographiques défavorables. Donc la simplicité de sa forme peut seule faire durer et triompher dans la lutte perpétuelle qu'il oppose aux voisins, aussi bien qu'à l'opprimé séditieux ou révolté. Une longue expérience lui apprend à quelle qualité elle doit d'exister encore, en dépit des hommes et des dieux, et d'avoir constamment remporté la victoire. Elle nomme vertu ses qualités et ne cultive que ses vertus. Elle le fait avec dureté, elle tient à cette dureté. Toute morale aristocratique est intolérante, undulzam, qu'il s'agisse de l'éducation de sa jeunesse, de la condition des femmes, du mariage, des rapports entre jeunes et vieux ou des lois pénales. Elle fait une vertu de l'intolérance même qu'elle baptise du nom de justice. Ainsi se fixe un type doué d'un petit nombre de caractères, très accusé, une espèce d'homme sévère, etc. Bon, donc je commente un peu ce texte qui peut paraître un peu brutal, et qu'il est effectivement. Donc les premières phrases posent une sorte de thèse ou de loi générale, et donne deux exemples, enfin plutôt un exemple, enfin la cité grecque sans dire de quelle cité il s'agit, et Venise. Une vérification, pourrait-on dire, expérimentale. L'idée, c'est que un type d'homme ne peut se fixer et se fortifier que dans le combat contre des conditions défavorables. Donc on pourrait dire que les sociétés humaines, ou on dirait les cultures humaines, ne se développent que contre, qu'en étant capable de se confronter à des situations défavorables. Et on voit tout de suite, évidemment, la face opposée, c'est-à-dire quand ce combat ne semble plus à l'ordre du jour, évidemment, le type d'homme se dilue. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Il me semble que cela implique trois aspects. D'abord, cette idée qu'on trouve d'ailleurs dans d'autres textes, en particulier la généalogie de la morale, qu'il n'y a pas de conditions immédiatement favorables à l'espèce humaine dans la nature. L'homme se trouve toujours dans la nécessité de construire durement et difficilement les conditions de sa survie. Et on ne rigole pas avec ça. C'est des conditions de vie et de mort. Où l'on est capable, une société donnée, est capable de s'affronter aux conditions hostiles, et elle peut survivre, ou elle n'en est pas capable, et elle meurt. Et donc on n'a pas attendu Valéry pour savoir, avec Nietzsche, que les civilisations sont mortelles. C'est à partir du... Alors vous voyez aussi tout de suite l'inquiétude de Nietzsche sur la société moderne. Est-ce qu'elle ne va pas, mort de Dieu, montée de l'individualisme, et qu'elle ne va pas se diluer? Bon, je laisse cette parenthèse de côté. Mais je crois que c'est très important pour la philosophie nietzschéenne. Il n'y a donc pas chez lui d'affirmation d'une harmonie préétablie entre le vivant, l'espèce humaine si vous voulez, et les conditions de vie. Il n'y a pas, au fond, la nature n'est pas une espèce de nid dans lequel naîtrait, comme heureusement, l'humanité. On est, je dirais, à la fois très loin et de Rousseau et de Marx. Et de Rousseau, pour qui l'homme trouve des conditions naturelles de survie heureuses. Et il trouve de quoi subsister dans l'état naturel, sans aucune espèce de problème, et il n'a à affronter personne. Chacun vit de son côté, dans sa niche ou dans sa forêt, et tout va bien, Madame la Marquise. Simplement, comme l'explique d'ailleurs très bien Rousseau, peu à peu, au long du temps, cette situation se désagrège, et apparaît une société structurée et des institutions, qui vont dégrader ce rapport heureux à la nature. Donc, si vous voulez, c'est la thèse de Rousseau, quand même bien connue. L'homme est naturellement bon, parce qu'il n'y a pas besoin de se battre. Mais c'est la nature c'est la culture, ou la société, ou l'histoire qui le corrompt. Donc, sous-entendu, c'est en changeant la société qu'éventuellement, par le contrat social, on retrouvera les conditions d'égalité, de sérénité, de paix, de l'homme, qui n'aurait jamais dû sortir de l'état de nature. Bon, alors ça, ce schéma, on peut dire qu'il est tout à fait étranger à la perspective nietzschéenne. Il n'y a pas d'accord préétabli. Bien au contraire. on vit que sur un désaccord. On pourrait dire en même temps qu'on est très loin de Marx. Si vous voulez, le Marx, surtout des manuscrits de 44, de l'idéologie allemande, pour laquelle, finalement, l'idéal, ce sera ou ce serait, comme ça a été un peu au début, et Marx hérite par beaucoup de côtés de Rousseau, une conciliation totale entre l'humanisme et le naturalisme. Il faut que l'homme retrouve, justement, cette domination de la nature, qui n'était pas évidemment celle des débuts, là il n'est pas rousseauiste, mais qui sera possible grâce au développement de l'industrie. Donc l'homme se retrouvera à cet état de quasiment paradisiaque, même si Marx n'utilise pas ce mot, entre la nature et lui. Et donc on retrouvera une situation de paix, de suppression d'aliénation qui sont liées à une histoire des sociétés humaines. Donc on peut dire que pour Nietzsche, il n'y a pas au point de départ un état de nature heureux, et il n'y a pas non plus à attendre, à la fin de l'histoire, une harmonisation, une réconciliation générale. Alors Nietzsche pose donc, sans nuance, il faut bien le dire, une sorte de loi générale, le oui à la vie, si on veut le oui à la vie, ne va pas sans poser des conditions rigoureuses d'un dire oui. Donc pour lui, il ne s'agit pas, les sociétés ne peuvent pas s'abandonner à la vie. Toute culture suppose un arrachement à la vie immédiate. Donc elle suppose une culture. Et lisez, si vous en avez le goût, ce qu'on appelle la deuxième dissertation de la généalogie de la morale, vous verrez le discours terrible sur l'éducation. Il ne s'agit pas de l'éducation gentillette, des notes bienveillantes, etc., gentillette avec les gens, etc. Il faut que l'individu humain soit dressé. Et il ne peut être dressé qu'à travers la contrainte et la discipline. Alors, ce qui est vrai de l'individu dans la généalogie de la morale, c'est vrai dans notre texte concernant les sociétés humaines. Alors, je crois qu'on peut simplement, si on est étonné de cette loi, prendre le cas de... Puisqu'il donne deux exemples, il donne une cité de la Grèce antique, mais sans la nommer, mais il parle de Venise. Et je crois que Venise répond assez bien à cette loi générale. Vous savez que Nietzsche admirait grandement Venise, il y a séjourné souvent, il aimait beaucoup cette ville, bon, comment ne pas l'aimer. Et on pourrait dire que l'exemple de Venise est tout à fait caractéristique, parce que Venise, c'est une île, on pourrait dire, contre nature, une ville contre nature. C'est une ville qui ne devrait pas être là. C'est une ville qui s'est dressée contre des conditions tout à fait défavorables, à savoir que c'est une ville qui flotte sur l'eau. C'est une ville qu'il faut sans arrêt remettre sur pied, et ça depuis toujours, parce que les pilotis pourrissent, parce que l'eau monte, parce que les maisons s'effondrent, etc. Donc on pourrait dire que c'est exactement cela, c'est-à-dire que Venise n'existe que parce que les Vénitiens se sont affrontés à des conditions défavorables en permanence et qu'ils ont su les surmonter et qu'ils savent toujours les surmonter. Et on pourrait dire dans une ligne nietzschéenne que Venise ne subsistera qu'aussi longtemps qu'il y aura des Vénitiens capables de lutter contre l'érosion de la mer. S'ils croyaient qu'une fois pour toutes c'est fait, ben ils vont sombrer un beau jour parce que les pilotis vont s'effondrer, les maisons vont se ruiner, la mer va monter, etc. Donc je crois que cet exemple est tout à fait caractéristique de ce que Nietzsche veut nous dire. Et on pourrait l'étendre, c'est-à-dire que au fond, toute société, les Amérindiens, etc., sont obligés de se battre contre une nature qui ne leur est pas de soi favorable, parce que la météorologie n'est pas bonne, parce que la terre dans laquelle ils sont n'est pas heureuse, et ils sont obligés de faire face à cela. Vous pouvez regarder ce que dit Lévi-Strauss, d'ailleurs, de ses chers Bororo et autres, n'est-ce pas, qui sont obligés de se déplacer, c'est-à-dire d'émigrer, chaque fois que la terre sur laquelle ils vivaient est épuisée, que le gibier n'est plus là, ils doivent faire des kilomètres pour trouver d'autres conditions de subsistance. Donc voilà, je crois que cet exemple est assez intéressant. Ça, c'était la première remarque que je voulais faire. La deuxième remarque, c'est que cette non-adéquation, le fait de découvrir des conditions non favorables suppose évidemment un combat. Il n'y a pas de société humaine sans combat. Et ce combat suppose une volonté de combattre. Toujours la même histoire. Une volonté de combattre. Qu'on veuille combattre. C'est-à-dire qu'on soit capable de relever le défi. Alors, je crois que ça, c'est aussi une des grandes idées nietzschéennes, c'est qu'il n'y a pas de vie humaine sans défi. et sans défi relevé. Celui qui croit qu'il n'y a pas de défi, ben c'est l'esclave. Il s'aligne, il se couche. Le maître, c'est celui qui est capable de faire face à des obstacles. Et donc, pour Nietzsche, on pourrait donner des exemples. L'artiste, qui est toujours dans la visée nietzschéenne, l'artiste, c'est rarement celui qui peint comme ça. Il a surmonté des obstacles. Et il a, et sinon, un grand artiste, c'est celui qui est capable de vaincre sa maladie, Proust, de vaincre toute espèce d'aléa, la misère, ses propres doutes pour être créateur. Donc, un type d'homme, une espèce, comme il dit, peut se laisser mourir ou ne peut trouver la force de dominer des conditions défavorables. Ce qui est vrai à la fois pour un groupe et ce qui est vrai pour l'individu. Alors, la troisième remarque, c'est que si on admet ces thèses, qui trouvent une vérification quand même, qui ne sont pas donc purement gratuites, on voit aussi, du coup, que le type homme, l'art mention, le type d'homme, n'est pas tout fait, n'est pas fixé, qu'il doit se structurer, comme il dit, se fixer, se définir dans ce combat. Et donc, on retrouve ce qu'il disait tout à l'heure un peu sur la typologie. On voit, par conséquent, des types d'hommes, des types d'humanité différenciés selon les combats que la société doit affronter. Vous voyez tout de suite que ce type de combat, il va supposer une hiérarchie. Par exemple, une société qui est surtout soumise à des attaques d'autrui, à la guerre. Elle doit se défendre contre d'autres tribus, elle doit se défendre contre des évasions. Bon, ou elle se laisse envahir et dominer. Bon, je dirais, dans un sens, il n'y a plus de problème. Ou elle résiste et elle se bat. Et du coup, elle va valoriser le guerrier. N'est-ce pas? Elle va fixer comme valeur la plus haute le guerrier. Et donc, cette société va s'organiser selon une hiérarchie guerrière. L'homme le plus fort, le plus costaud, le plus courageux, celui qui est capable de s'exposer, sera celui qui aura les plus grands privilèges. Inversement, le contemplatif, le mou, sera plutôt au bas de l'échelle sociale. Alors on pourrait dire la même chose, dans une société de commerce, c'est évidemment le commerçant capable de se débrouiller, d'échanger, etc., qui aura le dessus. Voilà, donc l'essence humaine n'est pas fixée, pourrait-on dire, avant même ce combat, mais dans ce combat même. Au fond, l'homme se révèle dans cette lutte. L'homme se révèle dans cette lutte. Et par conséquent, pour Nietzsche, l'espèce humaine n'est pas fixée une fois pour toutes, ce n'est pas une réalité toute faite, mais l'homme se fixe, comme il dit, ou crée ses valeurs dans la mise en œuvre de ses énergies, ou bien en se défaisant quand il renonce à la mise en œuvre de ses énergies. Voilà, c'est-à-dire Venise, pour reprendre à nouveau cet exemple, ne peut subsister que dans le combat contre les éléments défavorables. À partir du moment où la volonté de survie de Venise disparaîtra, Venise disparaîtra. Point final. Et le Vénitien est un type d'homme, enfin c'est moi qui prolonge un peu la réflexion de Nietzsche, qui n'est pas évidemment le type d'homme qui vit dans une plaine riche, avec des ressources, etc., et encore moins l'homme qui vit dans l'hostilité avec des tribus ou des ethnies voisines. Je crois que c'est quand même ça la perspective nietzschéenne. Donc, on a affaire avec Venise à ce qu'il appelle des sociétés aristocratiques, qui se caractérisent par le fait qu'elles ne survivent à des conditions défavorables qu'en se donnant des contraintes internes. Ce sont donc, et là évidemment le mot nous fait grincer des dents, des sociétés de la sélection. Elles choisissent de valoriser certains types. J'ai donné l'exemple du guerrier, société guerrière, société de combat, ou des sociétés de commerce. Dans une société de combat, on choisit et on élit comme les chefs et les premiers les guerriers et les pauvres types, les mous, les lâches, les contemplatifs, eh bien, on les laisse de côté. On les tue pas, mais on les laisse de côté. Ils vont constituer la masse des gens. société sélective. Tout n'y est pas permis parce que tout n'est pas possible. Et parce qu'il est nécessaire de se battre, je prends la société de guerriers, il est évident que l'on ne peut pas se permettre toutes les gaudrioles, tous les loisirs, tout le luxe, tout ce qu'on pourrait avoir ailleurs. Une société de guerriers va être une société austère, une société de bataille, une société, en gros, dans laquelle on ne rigole pas. Et dans cette société, seul sera bon et honoré ce qui donne vitalité à la société. Voilà, on retrouverait là l'idée d'une lutte à mort, qui n'est pas la lutte à mort hegelienne, mais qui s'en rapproche par certains côtés. Une société va valoriser ce qui la fortifie. Et elle va éliminer, ou éliminer pas au sens physique du terme, elle va dévaloriser, ou elle va censurer, ou elle va dégrader ce qui s'oppose à cette valeur majeure. D'où ce qu'il appelle dans notre texte la moralité, la morale, c'est cet ensemble de références qui vont exalter un certain nombre de valeurs, de vertus, et au contraire mettre du côté du négatif un certain nombre de vices ou de défauts, de non-valeurs, qui risqueraient de ruiner la société. Il est évident que dans une société de guerriers, celui qui promeuvrait le loisir, le farinente, simplement le luxe, ne serait pas bien vu. Donc on va valoriser cela et dévaloriser le reste. Alors comme dit Nietzsche, ce discours vient d'une longue expérience. Donc ça veut dire qu'il faudrait regarder, il l'a fait un peu mais pas énormément, l'expérience humaine au long des temps, l'anthropologie humaine. Et regarder en effet le rôle du temps. Dans le temps, un ensemble de sociétés diverses sont trouvées à s'affronter à des conditions diverses. Et la morale, au fond, est faite de ses us et coutumes, forgés dans la confrontation séculaire pour survivre. Donc ce n'est pas une inventivité personnelle et subjective, ça sera le cas de la société moderne et de sa décadence, c'est le résultat d'un long combat séculaire. D'où l'intolérance de cette société. Une société de guerriers ne peut pas tolérer les mous. Encore une fois, je ne dis pas qu'elle les tue. Elle fait une hiérarchie. Elle ordonne les choses de façon à valoriser ceux qui lui permettent de survivre. On pourrait d'ailleurs se demander si dans une société moderne, il n'est pas de même. On valorise les banquiers, etc. Et les moines, bon, à quoi servent-ils? On ne sait pas trop. Donc on valorise les scientifiques. C'est ceux-là qui ont le dessus parce que c'est eux qui nous permettent d'aller de l'avant. Bon, je laisse cet exemple. Au fond, aucune société ne peut tout se permettre. Le laxisme n'est pas de mode. Et on ne peut se permettre que ce qui permet à la société de survivre. C'est ce qu'elle va appeler la justice. Voilà. Alors, je crois qu'il faut aussi remarquer que ce qu'il appelle ici des conditions défavorables reste quelque chose de très, très indéterminé, finalement. Il prend l'exemple de Venise. J'ai un peu développé, à mes risques et périls, l'exemple des sociétés de guerre, de guerrières ou des sociétés commerçantes, commerciales. Mais Nietzsche ne dit pas que c'est la rareté économique, par exemple, qui est la source des sociétés humaines. Ce qui est une thèse que, par exemple, Jean-Paul Sartre avait défendue dans la critique de la raison dialectique. C'est l'idée, c'est que, parce qu'il y a une rareté économique, rareté des biens, une rareté des services, la société est obligée de se mobiliser, de se diviser. Sous-entendu, lorsque l'abondance survient, la société n'a plus besoin de ces choses. Bon, je crois que Nietzsche, il n'y a pas de déterminisme, c'est ça que je veux dire, si vous voulez. Il n'y a pas de déterminisme climatique. Il n'y a pas de déterminisme économique, il y a l'idée de conditions défavorables, mais qui appellent une volonté qui fait face. Alors voilà, il y aura un déterminisme, si vous voulez, si ces conditions défavorables dictaient un type de société. Mais elles ne dictent pas un type de société. Tout va dépendre de la capacité qu'a le type d'homme de retourner en système de faveur ce qui est défavorable. Et ça ne va jamais de soi. Donc c'est un point qu'il faut certainement souligner, parce qu'on range volontiers la pensée nietzschéenne du côté d'un déterminisme surtout biologisant. Ben, c'est pas la vie qui elle-même se déploie gentiment et qui pose les conditions de sa survie. Ça, c'est, je crois, pas du tout nietzschéen, en tout cas dans nos textes. Au fond, l'humanité n'arrive à atteindre son humanité que lorsqu'elle rencontre une discipline. Une discipline et qu'elle y fait face. Voilà, je crois que c'est un grand thème qu'on retrouve beaucoup ailleurs et qui est tout à fait essentiel, je crois, à l'anthropologie nietzschéenne. Alors, mais on va s'arrêter quelques minutes. Bien entendu, dès que on change, c'est-à-dire que dès que l'on se trouve dans des situations non plus défavorables mais favorables, évidemment les choses vont changer, et c'est la suite du texte, la deuxième partie, mais que se présente enfin une situation favorable et la rigoureuse tension se relâche. Peut-être n'est-il plus d'ennemis dans le voisinage, l'exemple que je donnais de la société guerrière, et dispose-t-on de très abondantes ressources pour vivre, voire pour jouir de la vie. Du coup, la contrainte de l'ancienne discipline se trouve rompue. Elle n'est plus sentie comme une nécessité, comme une condition de la vie. Elle ne pourrait se maintenir que sous la forme d'un luxe, d'un goût anarchisant. La vérité, que ce soit dans le sens d'une divergence qui aspire à une vie plus haute, plus fine, plus rare, ou dans celui d'une dégénérescence qui tend au monstrueux, entre subitement en jeu, dans toute sa force et son éclat, l'individu ose soudain s'y voler et prendre ses distances. Bon, si ça peut paraître étonnant, je dirais, on peut prendre une comparaison dans nos sociétés. Nous avons tous connu des grands-parents pour qui il n'y avait rien de pire que de ne pas économiser, que de ne pas épargner, que de gâcher son pain. On disait à l'enfant, il faut manger ton pain jusqu'au bout parce qu'il y a des petits Chinois qui ont faim, etc. Donc pas de gaspillage, n'est-ce pas? Aujourd'hui, le gamin peut jeter sa brioche s'il en a une. Nous sommes dans une société du gaspillage, parce qu'il y a d'abondance. Bon, je crois que c'est ça. C'est la valeur même de l'économie, de l'épargne, aujourd'hui, il fait très peu de sens, parce que nous avons une sécurité sociale, nous avons des assurances, nous plaçons notre argent à la bourse, on n'a pas besoin de mettre des bas de laine dans l'armoire de la grand-mère, avec des pièces d'or, parce que ça se dévalue, etc. Bon, pour prendre cet exemple, et pour dire que la position nietzschéenne n'est pas aussi fracassante qu'on voudrait croire, mais enfin, elle a évidemment sa force. Voilà, alors on s'arrête quelques minutes, et je poursuivrai cette lecture dans un instant. Alors, nous reprenons la lecture de cet aphorisme. Nous sommes donc au tournant, si je puis dire, c'est-à-dire au passage de ces sociétés de la contrainte, c'est-à-dire où la discipline va de soi, où la hiérarchie est posée avec rigueur et défendue avec non moins de rigueur, parce qu'il ne s'agit pas de s'opposer à ce qui est la condition même de survie de la société, mais évidemment cette situation change avec les conditions de survie, notamment dans les sociétés modernes. Alors je vais commencer à lire ce passage, je vous laisse le soin de continuer à le lire. On voit très bien que dans le schéma très simple que donne cet aphorisme, la transformation peut venir soit de conditions de vie internes qui changent. Par exemple, la société a davantage de ressources, davantage de richesses, donc elle va dénouer les contraintes, elle va, ce que j'ai dit tout à l'heure pour l'épargne, il y a moins besoin d'épargner parce que les richesses sont là, parce qu'on a moins peur de l'avenir, soit pour des raisons extérieures, quand il n'y a plus d'hostilité et d'ennemis. Et là encore, c'est un point, je crois, qui vaut la peine d'être noté. Ça peut paraître un peu guerrier, mais on pourrait dire qu'on l'a vu en Europe avec la chute du mur de Berlin. Lorsqu'une société n'a plus d'opposants, n'a plus d'ennemis, elle a beaucoup de mal à se situer elle-même. C'est-à-dire que c'est en effet dans l'hostilité, je crois que c'est un thème qu'on peut retenir de Nietzsche, c'est dans l'hostilité que l'on se définit soi-même. Lorsqu'on n'a plus d'ennemis, ou lorsqu'on croit ne plus en avoir, évidemment les ressorts internes de la société se détendent, et ça touche même à une interrogation sur son identité. Finalement, qui est-ce qu'on est, et cette identité se définit souvent dans l'altérité. Alors, on pourrait dire encore que, et ça c'est l'analyse nietzschéenne de la société moderne, que la facilité qui viendra de la richesse, qui viendra de ce que l'on a moins peur de l'ennemi. La facilité, évidemment, rend vaine, inutile, sans objet, l'ancienne discipline. Pourquoi se contraindre lorsqu'on a d'innombrables facilités? Ça se comprend sans peine. Donc, on perd de vue aussi la nécessité de survivre. Les choses paraissent faciles, les menaces s'éteignent ou sont très lointaines, et donc, d'une certaine façon, comme on ne les voit plus, les contraintes paraissent inutiles et du coup, elles tombent. Autrement dit, les choses qui allaient de soi dans les sociétés de contraintes ne vont plus de soi et paraissent des archaïsmes dont on peut se passer. Alors, ce qui est surtout caractéristique aux yeux de Nietzsche, c'est l'apparition de l'individu. Je continue ma lecture du texte. Cette morale qui a accumulé cette formidable réserve de force, qui a tendu l'arc d'une façon si redoutable, nous l'avons vu à propos de la discipline ecclésiastique sur l'homme européen, maintenant elle a survécu. Elle n'est pas dépassée, la traduction je crois n'est pas heureuse, parce que dépassée on l'entend toujours un peu au sens hegélien. L'étape ultime reprendrait les étapes antérieures. Non, c'est dépassé, c'est fini, comme on est sorti de ce monde-là. Le point dangereux et inquiétant est atteint lorsque la vie plus élevée, plus complexe et plus ample s'aventure au-delà des normes de la morale ancienne. L'individu, entre guillemets, est alors contraint de se donner ses propres lois, de découvrir les procédés et les ruses qui lui permettront de se conserver, de s'élever, de se libérer. Alors surgissent de nouveaux pourquoi, de nouveaux comment. Il n'est plus de formule commune. L'incompréhension s'allie étroitement au mépris. La déchéance, la corruption et les plus hautes aspirations tissent entre elles d'horribles liens. Je passe, le danger reparaît, se perd de la morale, le danger majeur, cette fois déplacé à l'intérieur de l'individu, du prochain, de l'ami, présent dans la rue, dans notre propre enfant, dans notre propre cœur, dans tout ce que le désir et la volonté ont de plus personnel et de plus secret. Que prêcheront les philosophes de la morale qui paraissent à ce moment? Je trouve un texte tout à fait assez prodigieux de pénétration et de subtilité. Donc, quand se dénoue le lien social de contrainte, il est forcé que l'individu surgisse. Règne ou avènement de l'individu moderne. Ici, Nietzsche ne fait pas une critique de cet individu. Je dirais, il analyse le fait que l'individu surgit, ne peut pas ne pas surgir, dans une société qui dessert les liens sociaux. Donc l'individu surgit. Mais l'individu va trouver dans cette liberté, dans cette société de moindre contrainte, évidemment un champ de déploiement à lui, propre à la contrainte morale. Il va s'isoler, il va prendre ses distances. Les initiatives individuelles vont proliférer, c'est pourquoi Nietzsche prend l'exemple de la forêt tropicale, c'est-à-dire qu'il y a une multiplication d'initiatives dans tous les sens, mais qui ne sont plus régulées par l'ancienne morale, qu'on a évidemment liquidée. Mais cependant, cette ancienne morale a préparé l'avènement de l'individu, c'est l'idée de la contrainte et de la discipline. L'individualité, l'individualisme plutôt, est le résultat de cette contrainte qui a éduqué l'individu, et qui a fourni les énergies nécessaires pour mobiliser l'action. Alors, le point de basculement aux yeux de Nietzsche arrive à partir du moment où le déséquilibre s'accroît et où finalement la référence à la contrainte sociale disparaît et que l'individu est laissé à lui-même. Et je trouve ce petit texte est tout à fait typique parce que le danger se trouve à l'intérieur même de l'individu. C'est à lui-même de se donner la discipline, de se donner la loi ou de ne pas se la donner. Et voilà, alors que dans une société de contraintes, disons, traditionnelles, la discipline est imposée de l'extérieur et l'individu est bien obligé d'y passer. Dans une société de liberté, comme dit Nietzsche souvent, une société démocratique, une société des individus, La contrainte sociale s'est desserrée, mais c'était à l'individu de se donner sa discipline. Et bien entendu, aux yeux de Nietzsche, il n'est pas sûr du tout qu'il se la donne. Il n'est pas sûr du tout qu'il se la donne. Et comme il est dit ici, le danger n'est plus à l'extérieur, dans les guerriers, dans l'eau à Venise. Le danger, il est dans l'individu lui-même. C'est-à-dire que c'est l'individu qui se pose question lui-même. Dans une société traditionnelle, au fond, les chemins sont tout tracés, plus ou moins. On sait où est le bien et le mal, on sait avec qui on va se marier, on sait comment on vit et comment on meurt, on sait comment on gère l'argent. Dans une société de liberté, on ne le sait plus. C'est à chacun de choisir. Le peut-il ? Et le danger, il est là. Il est dans l'individu incertain et dans l'individu tenté éventuellement par ce qu'il appelle le laisser-aller, que nous allons trouver dans le texte, dans un texte postérieur, 188. Alors, cette désagrégation d'une société traditionnelle ou aristocratique porte avec soi ce que Nietzsche appelle dans d'autres textes la décadence. La décadence. La décadence a un sens relativement précis chez lui. C'est pas comme nous croyons la décadence des mœurs, le laisser-aller moral, etc. C'est le moment où la partie se substitue au tout et le déséquilibre. Alors, je crois très instructif de lire un petit passage dans un texte postérieur qui est le cas Wagner. Texte très très méchant contre Wagner, qu'il accuse d'être un décadent. C'est le cas Wagner au paragraphe 7, c'est un petit texte. Comment se caractérise, je lis Nietzsche, toute décadence littéraire par le fait que la vie ne réside plus dans le tout. Le mot devient souverain et saute hors de la phrase. La phrase obscurcit le sens de la page et empiète dessus. La page s'accapare la vie aux dépens du tout. Le tout n'est plus un tout. Alors, ce mot de décadence, il l'avoue un peu plus tard, il le doit à Paul Bourget. On pourrait s'attendre à une autre filiation. Mais c'est Paul Bourget qui parle de la décadence littéraire en ce sens-là. Évidemment, Nietzsche va élargir ce mot. Ce terme, ce concept, ce n'est plus simplement une décadence littéraire. Vous voyez qu'il l'applique à la société. Il y a décadence dans une société quand il n'y a plus de tout, c'est-à-dire quand on a une désagrégation du tout. N'est-ce pas? Le mot saute hors de la phrase hors de la page, etc. Cette comparaison vaut pour nous, pour tous les styles de décadence. Chaque fois, anarchie des atomes, désagrégation du vouloir, pas si la volonté ne se mobilise, ne se structure que dans une fin, lorsqu'il n'y a plus de fin, la volonté risque bien de se désagréger. Donc c'est, je crois, tout à fait logique et cohérent. Alors, donc je répète ces conséquences, anarchie des atomes, désagrégation du vouloir, entre guillemets, liberté individuelle pour parler en termes moraux, ou, si on étend cela à une théorie politique, entre guillemets, égalité des droits pour tous, égalité des individus. Ce qui veut dire aussi indifférenciation. Il n'y a plus de différence entre l'un et l'autre. La vie, la vitalité, répandue partout d'une manière égale, soulignée, la vibration et l'exubérance de la vie reléguée dans les formes les plus minuscules et tout le reste dépourvu de vie, etc. Le tout n'est plus du tout la vie, c'est un agglomérat, un objet de calcul, quelque chose de factice, un artefact. On trouverait là l'origine de la critique de l'utilitarisme. Tout devient utile. Voilà. Alors, la décadence signifie la désagrégation d'une totalité vivante au profit de l'individu. Et parce que celui-ci ne trouve plus dans une société moderne, c'est-à-dire dans la vie de l'ensemble, la justification, la raison d'être de sa vie, il doit se la donner lui-même, cette raison d'être. C'est à l'individu de se forger lui-même ses raisons d'être et de trouver son sens. Il doit forger lui-même les moyens et trouver les vertus de sa conservation. Alors on voit tout de suite le danger qui est à la porte, ce danger possible. c'est qu'évidemment, la construction de soi, la fixation de soi-même, de son humanité, devient plus difficile parce que on n'est pas aidé par la société. La société n'exerce plus son poids pour vous contraindre à un certain nombre d'obligations, de devoirs, etc. Et par conséquent, c'est à l'individu de les trouver. Ben, on pourrait dire qu'on voit très bien ça dans les relations de mariage. Lorsque la société traditionnelle vous imposait finalement votre conjoint, ce n'était pas toujours drôle, mais elle vous soutenait ensuite. Et peut-être avec beaucoup d'hypocrisie, mais elle vous soutenait. À partir du moment où la société dit « c'est à vous de décider », c'est évidemment le sentiment individuel qui prend le dessus. Et il n'y a rien de plus passager et transitoire, comme nous savons, que le sentiment individuel. D'où ce que Nietzsche appelle la fragilité des relations. Hein, on vit quelque temps avec l'un, puis on passe à l'autre, etc. D'où le risque d'éclatement, et aussi, ce à quoi il est très sensible, le risque de désarroi pour l'individu. N'est-ce pas? Si la volonté de vérité, c'est de savoir à quoi s'en tenir, on pourrait dire que pour Nietzsche, le moderne ne sait plus à quoi s'en tenir. Il ne sait plus à quoi s'en tenir. Donc avec le risque de se donner des croyances qui lui permettent de tenir debout, mais qui vont aussi l'écraser. Alors le danger n'est plus à l'extérieur, comme jadis, comme dans les sociétés traditionnelles. Le danger, il est interne à l'individu. Et c'est à lui de se poser la question du sens de sa vie. Pas quand on dit on est dans une société qui donne plus de sens à l'individu. Il faudrait qu'elle en donne un. Comment voulez-vous qu'elle donne un sens à l'individu? C'est à l'individu de le trouver, je crois que de ce point de vue-là, notre philosophe a raison. C'est à l'individu de trouver le sens de sa vie. Personne ne peut lui fournir à sa place. Mais la question ne cesse pas de se poser. Qu'est-ce que c'est que vivre? À quoi bon vivre? Vivre pourquoi et en vue de quoi? Est-ce qu'il simplement s'agit de jouir de la vie, comme un troupeau? Et pour Nietzsche, le danger n'est pas mince. Est-ce que c'est se donner des valeurs morales, mais en vue de quoi et sur quel fondement? Alors, on débouche sur le jugement très sévère, selon lequel la société moderne connaît le règne de la médiocrité généralisée, la morale du troupeau. C'est-à-dire que je fais ce que tout le monde fait, grégarisme, le troupeau. Plus de chef, un seul troupeau, comme dit Zarathoustra. On suit la mode, le courant, les tendances dominantes. C'est-à-dire, on retrouve une nouvelle forme de conformisme. Ce qui veut dire aussi que pour Nietzsche, il n'y a plus d'élite à proprement parler sur lesquelles se régler. Dans une société de guerriers, il y a une élite dont on peut avoir conscience de ne pas faire partie. Si on ne tient pas à faire la guerre, on est commerçant, on est ce qu'on voudra, on est intellectuel. Mais dans une société égalitaire, il y a le risque que règnent ce qu'il appelle les médiocres. Je lis la fin de ce paragraphe 262. N'est-ce pas, le danger reparaît, mais il apparaît dans l'individu. Du fond de la retraite où ils se tiennent à l'écart des événements, les observateurs perspicaces, suivez mon regard, on voit bien qui est cet observateur perspicace, découvrent que la société court à sa fin, que tout se corrompt et engendre la corruption autour d'eux, que rien ne dure jusqu'au surlendemain, à l'exception d'une sorte d'homme, les médiocres Mittelmäßigen incurables. Voilà, société moderne, c'est le règne du médiocre. Parce que ça veut dire quoi se dépasser? Ça veut dire quoi faire la guerre? Ça veut dire quoi lutter pour la patrie? On rigole. 14-18, ces pauvres types qu'on envoyait au front, c'est lamentable. Hein, on jouit du présent. Les médiocres, seuls, ont une chance de se perpétuer, de se reproduire. Ce sont les hommes de l'avenir, les seuls qui survivront. Soyez comme eux, devenez médiocres. Telle est, dès lors, l'unique morale qui garde un sens, qui suscite un écho. Faites comme tout le monde, allez faire du ski à Noël, achetez une nouvelle voiture tous les 6 mois, suivez le courant. Bon, c'est ça que Nietzsche appelle les médiocres. Morale moderne qui va prêcher la perpétuation du médiocre en se nivelant sur la moyenne admise. Alors, cette idée de désagrégation, on pourrait penser à René Girard, n'est-ce pas ? Il n'y a plus d'opposition, donc désagrégation. Désagrégation, c'est le risque de chaos, bien entendu. Alors, ça veut dire que une société moderne, évidemment c'est une analyse qu'on peut discuter, je refuse pas de le discuter, mais enfin, cette société moderne à ses yeux, elle ne supporte plus le défi des grandes causes. Elle se moque même des grandes causes. Parce qu'on n'en comprend plus la nécessité. On veut bien défendre la patrie, qu'est-ce que ça veut dire ? Se battre pour l'Europe, ça veut dire quoi ? Ça n'a pas de sens. Alors, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas une morale moderne. Il y a une morale, c'est celle du troupeau. Mais elle est en contradiction avec les conditions de survie ou les conditions de toute morale vivante, morale vivante. Elle est le règne de la médiocrité. Alors on peut regarder le paragraphe 188, qui est très long, donc je ne vais pas le lire en son entier, mais simplement quelques remarques. Contrairement au laisser-aller, souligné et en français, le laisser-aller moderne, faites ce que vous voulez, vous êtes tout à fait libre de mener votre vie comme vous l'entendez, de vous droguer. Bon. Contrairement au laisser-aller, toute morale est une tyrannie qui s'exerce contre la nature et aussi contre la raison. Ceci n'est pas une objection contre elle, car seule quelque morale permettrait de décréter l'interdiction de toute espèce de tyrannie et de déraison. Ce qui fait le caractère essentiel et inappréciable de toute morale, c'est d'être une longue contrainte. Vous voyez, quand on dit Nietzsche est un anarchiste, laissez-moi rire. Toute morale, c'est une longue contrainte. Pour comprendre le stoïcisme, ou Port-Royal, hein, Pascal n'est jamais loin, ou le puritanisme, il faut se souvenir de la contrainte qu'il a fallu pour que chaque langue acquiert sa force et sa liberté. Ben, c'est intéressant comme la langue. Ben, on voit bien la dégradation d'une langue aujourd'hui. Hein, le français dégradé, etc., parler n'importe comment. Parce que la langue, déjà, c'est une contrainte. Hein, c'est une longue contrainte. Et à partir du moment où on dit ben, on peut parler à toute vitesse en verlan, etc., pourquoi pas, il n'y a plus de contraintes. Que de peines se sont données dans chaque peuple les poètes et les orateurs pour l'amour d'une folie, comme disent les benêts utilitaristes, qui se croient malins par soumission servile à des lois arbitraires, comme s'expriment les anarchistes, qui s'imaginent ainsi faire preuve de liberté, voire de liberté d'esprit. Là, c'est contraire à la nature. La nature est le naturel et n'est pas dans le laisser-aller. Tout artiste, c'est combien ? Là, nous comparaisons avec l'artiste. La longue servitude de l'esprit, la contrainte soupçonneuse qui a régné dans la communication des pensées, la discipline que s'imposait le penseur de penser selon les normes d'une église et d'une cour ou selon les postulats d'Aristote, c'est pas la scolastique, finalement, médiévale, c'était une contrainte de penser selon un certain nombre de catégories. C'était pas, je dis ce qui me passe par la tête, mais le surréalisme, on écrit automatiquement ce qui vous passe par la tête, c'est magnifique. Non, il s'agit au contraire de penser, mais selon les catégories d'Aristote ou selon les dogmes. Le long effort spirituel qui fit interpréter chaque événement selon un schéma chrétien, etc. Et la conclusion, qu'on examine toutes les morales, c'est ce qui est nature en elle qui enseigne la haine du laisser-aller et de la licence. Donc vous voyez, ça c'est très étrange. Hein. La nature n'est pas la facilité rousseauiste. La nature nous impose de nous opposer au laisser-aller. La nature, si nous voulons être des hommes, nous impose une discipline. C'est pour ça qu'il est si sévère contre l'idée stoïcienne, épicurienne, vivre selon la nature. Vivre selon la nature, c'est justement s'opposer, être capable de faire face aux conditions de la vie telle qu'elle est donnée. Qu'on examine toutes les morales, c'est ce qui est contraire, ce qui est nature en elle, qui enseigne la haine du laisser-aller et de la licence, et qui veut que l'homme se contente d'horizons restreints et de tâches prochaines. Et oui, ça veut dire qu'à partir du moment où l'on doit choisir, ben on ne peut pas choisir tout. Vous choisissez un métier, vous choisissez une femme, vous choisissez ou un homme, vous choisissez une religion, Ah non, mais aujourd'hui, on veut... Toutes les religions sont belles. Enfin, on va prendre un peu de nirvana aux bouddhistes, un peu de charia aux musulmans, un peu de, je sais pas quoi, aux cathos. On fait sa petite cuisine. Voilà, c'est ça que Nietzsche ne peut pas voir en peinture. Parce que si vous voulez décider, il faut décider dans un sens. Donc, rétrécissement des perspectives. Et donc, en un certain sens, la bêtise. Bon, il faut prendre ça avec humour. Eh oui, je ne suis que cela. Je ne suis pas tout. La bêtise comme condition de la vie et de la croissance. Tu obéiras, peu importe à qui et pour longtemps, sinon tu périras et tu perdras tout respect de toi-même. Voilà, c'est proche de Kant, finalement. Hein. Voilà, à mes yeux, l'impératif moral de la nature. Un impératif qui, à coup sûr, n'est pas catégorique comme voulait le vieux Kant, ça c'est pas sûr, ni destiné aux individus, mais à des peuples, à des races, à des âges, à des classes, et par-dessus tout à l'animal homme tout entier, à l'homme, pas à l'espèce humaine, à l'homme. Voilà, donc la nature elle-même nous impose la contrainte. Tel est l'impératif moral de la nature. C'est la nature, finalement, qui impose la contrainte. Alors, je vous renvoie à un autre texte dans le Zarathoustra qui s'appelle « L'arbre à la montagne ». Alors, il s'agit d'un jeune homme qui va voir Zarathoustra et qui dit « Oh, mais comme c'est beau, j'aimerais te suivre, vous voyez, j'aimerais marcher avec toi, naviguer, danser comme cet arbre où les feuilles bruissent au vent, sont fidèles au vent qui passe, etc. et qui résistent à la tempête ». Et alors Zarathoustra lui répond, eh bien, oui, si tu veux être comme cet arbre, au lieu de commencer à regarder en haut et de batifoler, il faut d'abord que tu commences par t'enraciner. Les conditions pour que l'arbre résiste au vent, c'est qu'il ait des racines. Donc pour, il y a quelque chose d'un peu chrétien, pour t'élever, il faut commencer par t'abaisser. Bref, trouver racines, c'est-à-dire vous incarner quelque part et non n'importe où. Alors, on pourrait dire, et je vais terminer par là, qu'est posée ici une condition nécessaire, mais pas suffisante, à toute affirmation créatrice. Il n'y a pas de création sans contrainte, que ce soit la création artistique, la création morale, la création politique, bien évidemment. Et pour ouvrir simplement une petite parenthèse, pour Nietzsche, le problème de la démocratie, c'est qu'elle vous donne la liberté sans qu'on ait à se battre pour elle. Très beau texte que je pourrais citer dans le Crépuscule des idoles, où il écrit que la liberté meurt à partir du moment où on n'a plus besoin de se battre pour elle. Parce qu'elle perd sa valeur. On ne voit plus la valeur de la liberté. Alors, Dieu sait si c'est un regard aigu et actuel. On n'a plus besoin de se battre pour la liberté, puisqu'on l'a. Eh oui, mais on ne l'a pas. Et pour Nietzsche, qui rejoint en ce sens un certain nombre de penseurs importants en philosophie politique, le risque de la démocratie, c'est qu'elle se détruise du dedans. C'est pas qu'elle ait des ennemis, au contraire, qu'elle ait des ennemis, c'est plutôt heureux pour elle. Mais c'est que du dedans, les citoyens ne voient plus la valeur sur laquelle repose leur liberté. Et ne se battent plus pour la liberté, ils s'en jouissent. Jouir de sa liberté. Alors, je voudrais faire un tout petit aparté. Donc, vous voyez dans ce paragraphe 188, le mot nature revenir au moins deux fois. Et ça nous met évidemment très loin de Rousseau. Alors je voudrais faire un petit aparté pour montrer d'un côté que cette pensée de Nietzsche, on la retrouve chez d'autres, et d'autre part montrer que les interprétations peuvent être tout à fait diverses de ces textes. Alors d'abord, je suis frappé de constater à quel point cette analyse du rapport entre société traditionnelle et société démocratique se retrouve chez un Alexis de Tocqueville. Hein? Tocqueville, je pense que chacun sait comment ça s'écrit, mais je vais mettre dans le tableau. Tocqueville, évidemment, rien ne rapproche ces deux hommes. Tocqueville, c'est un aristocrate normand, il a vécu au début du XIXe siècle, il a enquêté sur l'Amérique. Il a fait un très beau livre, magnifique livre, « Démocratie en Amérique », que je ne peux que vous recommander. Il n'a jamais connu Nietzsche, bien entendu, et la réciproque est vraie. Nietzsche, autant que je sache, Nietzsche n'a jamais lu un mot de Tocqueville. Et cependant, on pourrait recouvrer presque point par point ce que je viens de dire sur la société moderne avec Tocqueville. Puisque Tocqueville parle des sociétés aristocratiques ou traditionnelles, au fond, dans les mêmes termes que Nietzsche, il y a une hiérarchie, il y a une continuité entre le passé et le présent, l'individu est fondé, est fondu dans la totalité, ce qui ne l'empêche pas de vivre bien, etc., etc. Et à cela, il oppose, enfin le mot est trop fort, il distingue cela d'une société démocratique, dans laquelle règne ce qu'il appelle l'égalité des conditions, c'est-à-dire la recherche de l'égalité, et l'individualisme moderne. Alors, pas plus que Nietzsche d'ailleurs, Tocqueville ne caractérise l'individualisme de manière péjorative. Mais il n'en voit pas moins, parce que c'est un homme lucide, les dangers de l'individualisme. Et les dangers de l'individualisme, c'est le risque du repli sur soi et de l'indifférence pour la chose commune. Alors on pourrait dire autant dans une société aristocratique, la chose commune domine sur le bien de l'individu, autant dans une société démocratique, l'individu se détourne de la chose publique. Ce qui n'est pas sans risque de voir arriver ce que Tocqueville appelle, mais je vais citer les textes de Nietzsche qui vont dans le même sens, un despotisme doux. Alors je vais lire un texte, parce qu'en plus c'est une magnifique langue française, dans La démocratie en Amérique, au tome 2, chapitre 4, paragraphe 6, au tome 2 de la Pléiade. Alors, il décrit là la démocratie qui voit venir. Il y a un côté un petit peu anticipateur, voire prophétique. Et vous allez voir, c'est vraiment, on pourrait dire, c'est quasiment du Nietzsche. Il faudrait lire tout le texte qui est très très bon, mais trop trop long. Je vois une foule innombrable d'hommes semblables et égaux qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs, dont ils emplissent leur âme. Chacun d'eux, retiré à l'écart, est comme étranger à la destinée de tous les autres. Ses enfants et ses amis particuliers forment pour lui toute l'espèce humaine, les copains. Quant au demeurant de ses concitoyens, quant au reste de ses concitoyens, il est à côté d'eux, mais il ne les voit pas. Il les touche, mais il ne les sent point. Il n'existe qu'en lui-même et pour lui seul, et s'il lui reste encore une famille, on peut dire du moins qu'il n'a point de patrie. Au-dessus de cela s'élève un pouvoir immense et tutélaire qui se charge seul d'assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort. Il est absolu, détaillé, vous mettez votre ceinture dans votre voiture, vous changez vos lampes parce que Bruxelles a demandé. Il est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux. Il ressemblerait à la puissance paternelle si, comme elle, il avait pour objet de préparer les hommes à la vie visible. Mais il ne cherche, au contraire, qu'à les fixer irrévocablement dans l'enfance. Il aime que les citoyens se réjouissent, les nuits blanches. Il aime que les citoyens se réjouissent pourvu qu'il ne songe qu'à se réjouir. Il travaille volontiers à leur bonheur, mais il pourvoit leur sécurité, conduit leurs principales affaires, dirige leur industrie, prévoit et assure leurs besoins, facilite leurs plaisirs, règle leur succession, divise leurs héritages. Que ne peut-il leur ôter entièrement le trouble de penser et la peine de vivre ? Hein ? Bon, bah, du Nietzsche, je dirais, je crois qu'il signerait des deux mains, enfin, me semble-t-il. Parce qu'il écrit un peu la même chose. Regardons le paragraphe 242, qui est aussi lui-même tout à fait éclairant. 242. Voilà. Qu'on nomme civilisation, humanisation, progrès, tout, en guillemets, ce que l'on tient maintenant pour la marque distincte des Européens, bon, je passe, prenons le milieu. Les conditions nouvelles qui entraîneront en gros l'apparition d'hommes tout pareils et pareillement médiocres, comme grégaire, utile, laborieux, diversement utilisable et adroit, sont éminemment propres à donner naissance à des hommes d'exception du genre le plus dangereux et le plus séduisant. En effet, alors que ce pouvoir d'adaptation qui affronte des circonstances sans cesse changeantes et se remet à l'œuvre à chaque génération, presque tous les 10 ans, ne permet pas au type humain, toujours le Hart mentionne, de s'affirmer avec force, alors que ces Européens à venir n'offriront probablement dans l'ensemble l'apparence d'ouvriers bons à tout, bavards, faibles de volonté et utilisables à toute fin, qui ont besoin d'un maître, d'un chef, autant que de leur pain quotidien. Bref, alors que la démocratisation de l'Europe engendrera un type d'homme préparé à l'esclavage au sens le plus raffiné du mot, l'homme fort, qui représente le cas isolé exceptionnel, devra, pour ne pas avorter, être plus fort, mieux doué qu'il ne l'a peut-être jamais été, et ceci grâce à une éducation sans préjugés, grâce à la prodigieuse diversité de son expérience, de ses talents et de ses masques. Je veux dire ceci, que la démocratisation de l'Europe est en même temps, et sans qu'on le veuille, une école de tyrans. Ce mot étant pris dans toutes ses acceptions, y compris la plus spirituelle. C'est du Tocqueville, en plus rude, parce que c'est moins aristocrate que... N'est-ce pas? Voilà, c'est la même chose. Chacun veut vivre son petit côté, et il admettra tout à fait des tyrans, à condition que le tyran vous permette de vivre tranquille et de vous reposer. Alors, tout à l'heure, quelqu'un me posait la question du rapport de Nietzsche avec le nazisme. Vous voyez? À la place du tyran, vous mettez Hitler. C'est ça que Nietzsche redoute. Mais attention, c'est pas qu'Hitler s'impose, c'est la masse qu'il demande. C'est les médiocres qui disent « Ah, mais on veut un chef qui mette de l'ordre, qui assure la sécurité, qui nous permette de jouer de la vie. » Bon, ça c'est une première remarque pour dire qu'il y a des correspondances étranges entre Tocqueville et Nietzsche, qui indique aussi qu'il y a des tendances lourdes d'analyse de la société moderne, au fond, dans ce même sens. Mais je voudrais faire une ouverture vers une autre interprétation. Comme vous voyez, la position nietzschéenne, c'est de dire la société moderne est une société au fond de la singularité. Il n'y a plus que des singularités, des éclats, il n'y a plus de relations communes, il y a des atomes, des mots qui ont sauté en dehors de la page, ce que lui appelle décadence. Mais il est intéressant de constater que cette position nietzschéenne alimente chez certains l'anarchisme, une récupération nietzschéenne d'extrême gauche ou une récupération nietzschéenne nihiliste. Je vais m'appuyer ici sur des textes qui datent de 1972, d'une décade, comme on dit toujours d'ailleurs, à Cerisy-Lassalle sur Nietzsche, qui a été publié en 2 volumes dans 10-18. Alors, vous savez que les Américains ont inventé une école française de philosophie qui regroupe Lyotard, Derrida, Deleuze. Foucault, bon, qui n'ont absolument rien de commun, sauf aux yeux des Américains, qu'ils seraient tous nietzschéens. Et on les retrouve d'ailleurs à peu près tous même là-dedans. Alors, je voudrais citer un passage de Lyotard, qui s'appelle « Intensité au pluriel ». C'est ce que j'appelle une récupération, vous allez voir, ultra-gauche. Assez curieux, parce qu'on fait toujours de Nietzsche... un conservateur. Bon, il fait une analyse rapide de cette idée que je viens de développer, de l'éclat, de la différence avec, vous mettez un A s'il vous plaît, de ce qui diffère, de ce qui est autre, de l'altérité, de la singularité, des intensités qualitatives. Alors que pourrait être, dit-il, une politique de ce type ? Celle qui est cherchée, alors il va au-delà de Nietzsche, mais enfin il s'appuie sur Nietzsche, là. Celle qui est cherchée depuis une bonne décennie, 72, on n'est pas loin de 68, dans tout l'Occident, gestion directe, non-représentativité, révocabilité à chaque instant, ponctualité des actions et leur intensité, est évidemment en rapport avec cette question. Il reste à débarrasser cette expérimentation politique de son rousseauisme. Par rapport au gauchisme, cette politique devrait être dans le même rapport que Nietzsche avec Wagner, la dénoncer comme fausse rupture avec la pouillerie politique, comme maintien sous-jacent dans le théâtre, dans la théâtralité du politique convenu et reçu, comme promesse religieuse de réconciliation. Donc il n'y a pas de réconciliation. Plus important que le gauchisme politique, plus proche d'un rapprochement des intensités. Un vaste mouvement souterrain, hésitant, plutôt un remuement pour lequel la loi de la valeur est désaffectée. Freinage, au pluriel, à la production. Donc, torpiller le travail dans les usines, hein, ce qu'on a fait après ça. Freinage à la production. Saisie sans contrepartie. Vol à la consommation. Refus de travailler. Communauté, au pluriel, happening. Mouvement de libération sexuelle. Occupation, occupation d'usine. Squatting, rapt. Production de sons, de mots, de couleurs, sans intention d'œuvre. Voilà les hommes de surcroît, cite Nietzsche, les maîtres d'aujourd'hui, marginaux, peintres expérimentaux, pop, hippies, parasites, fous, hommage à Foucault, internés. Il y a plus d'intensité et moins d'intention dans une heure de leur vie que dans 300 000 mots d'une philosophie professionnelle, plus nietzschéen que les lecteurs de Nietzsche. Vous voyez, ça, ce que j'appelle la récupération gauchiste, enfin, gauchisante des singularités. Sans s'apercevoir qu'il transforme en positivité ce qui, pour Nietzsche, est le danger des sociétés modernes, ce qu'il appelle la décadence. Alors, je vais prendre un autre texte alors, d'un maître à penser de cette école, qui est Derrida. Alors lui, Jacques Derrida. Bon, tous les deux, Lyotard et Derrida, sont morts, donc paix à leur âme. Dans ce colloque de Cerisay-Lassalle, Derrida a commenté un petit texte posthume de Nietzsche qui tient en ces mots « J'ai oublié mon parapluie ». Et Derrida a parlé au moins 2h30, parce que quand il parlait toujours très longuement, sur ce texte. Alors on a publié heureusement un résumé. Je vous enlève des passages dans ce premier volume. Alors, qu'est-ce que ça veut... Bon, alors, comme vous le savez, Nietzsche écrivait des petits papiers parce qu'il est aveugle. Le bon sens nous dit, ben, vraisemblablement, en quittant un hôtel, il a oublié son parapluie. Il a envoyé un petit mot pour mettre « J'ai oublié mon parapluie ». Bon, vous n'êtes pas assez métaphysicien pour ne pas voir plus loin. Et Derrida nous montre que c'est tout à fait autre chose. Alors, le contenu de l'analyse, mais c'est pas tellement ça qui m'intéresse, c'est... Bon, vous voyez tout ce qu'on peut dire sur l'oubli. J'ai oublié la mémoire. Le parapluie. Le parapluie, ça s'ouvre et ça se ferme. Si vous avez lu Lacan, c'est le phallus qui s'ouvre et qui se ferme. Oublier son phallus, et le travail. Donc, le pauvre Nietzsche, vous voyez, on peut pendant des heures parler sur « J'ai oublié mon parapluie ». Mais, bon, est-ce que ce texte a de l'importance ? C'est ça qui m'intéresse. Peut-être saurons-nous un jour, dit-il, quel est le contexte signifiant de ce parapluie. On fera des travaux savants, ça va. Mais... Les éditeurs le savent peut-être, quoiqu'ils n'en disent rien. Eux qui déclarent n'avoir retenu dans leur travail de sélection et de mise au point des manuscrits que ceux qui communiquent avec ce qu'ils jugent être un travail élaboré de Nietzsche. Alors, la tendance aussi de ces groupes, c'est surtout d'aller chercher des textes posthumes, hein, pas les textes élaborés comme nous le faisons. Peut-être un jour pourra-t-on reconstruire avec du travail et de la chance le contexte interne ou externe de ce « j'ai oublié mon parapluie ». Or, cette possibilité factuelle n'empêchera jamais qu'il soit marqué dans la structure de ce fragment, mais le concept de fragment reste ici insuffisant, qu'il puisse à la fois rester entier et à tout jamais sans autre contexte, coupé non seulement de son milieu de production, mais de toute intention ou vouloir dire de Nietzsche. il se pourrait qu'on découvre que Nietzsche n'a rien voulu dire du tout. Se vouloir dire et cette signature appropriante, nous demeurons au principe inaccessible. Donc, on ne sait même pas si, après tout, c'est peut-être pas un texte de Nietzsche, il l'a peut-être jamais écrit. Non que cet inaccessible soit la profondeur d'un secret, il peut être inconsistant, insignifiant. Nietzsche n'a peut-être rien voulu dire. Ou bien il a peut-être voulu dire peu de choses. Ou n'importe quoi. Ou encore faire semblant de vouloir dire quelque chose. Cette phrase n'est peut-être pas de Nietzsche, même si l'on se croit sûr d'y reconnaître sa main. Mais qu'est-ce qu'écrire de sa main ? Assume-t-on, signe-t-on tout ce qu'on écrit ? Assume-t-on sa propre signature ? Voilà, c'est ça que j'appelle le nihilisme du signifiant. Hein ? Peu importe le signifiant, il n'a pas de sens, ou il a tout le sens que vous pouvez y mettre. Il n'est peut-être même pas de Nietzsche, mais peu importe. Prenez un papier, vous pouvez parler pendant 2 heures et demie sur un papier insignifiant. C'est le règne de l'insignifiant. Je trouve que c'est tout à fait intéressant comme discours. Il faut voir aussi que, c'est déjà très ancien, j'étais présent à cette séance, l'enthousiasme du public, mentionnant l'orateur de cette grande découverte. Voilà, je suis un peu méchant en disant ça, mais je dirais, voilà, on trouve là, si vous voulez, l'interprétation nihiliste extrême de la pensée de Nietzsche. Bah, à la limite, alors on pourrait regarder les livres de Klossowski sur Nietzsche, peu importe ce qu'il a écrit et signé, vous voyez, ce qu'il a signé, c'est ça, les livres publiés. Non, non, on va les chercher dans les posthumes, parce qu'à la limite, c'est presque plus important que les textes qu'il a signés, parce que s'il a vraiment signé, quand vous signez, est-ce que vous engagez dans ce que vous signez ? Peut-être pas, même pas, oui. Voilà, c'est ça que j'appelle le... Alors, voilà, on reprend un thème qui est celui de la singularité, qui est tout à fait présent, en effet, chez Nietzsche, l'individualité, de la cassure du tout, qui est, je crois, enfin, les textes publiés, hélas, signés, montrent clairement que, pour Nietzsche, c'est une décadence. Ben, on en fait, dans ce discours-là, l'extrême pointe de l'actualité, de la pertinence. Voilà, excusez que ce soit un petit peu méchant, mais après tout, au fond, bien. Non, parce que c'est quand même des pensées dominantes, hein, si... Alors, vous voyez tout de suite, évidemment, que pour un Derrida, il faudrait porter pour un Lyotard, ce que Nietzsche dit de la croyance, de la religion, on s'en fout. D'ailleurs, juste après Derrida, dans ce colloque, il y a eu une intervention de Eugen Bieser. Bieser est un philosophe allemand, très âgé maintenant, qui a écrit un très beau livre sur la mort de Dieu. La mort de Dieu chez Nietzsche. Et il a fait une intervention qui est d'ailleurs dans le deuxième volume. La salle s'est vidée. Et Eugen Bieser, à côté duquel j'étais, s'est dit, mais pourquoi part-il ? Ils sont fatigués ou... Parce que c'est beaucoup plus intéressant de s'intéresser au parapluie qu'on a perdu qu'à la mort de Dieu. Vous voyez, dans ce contexte. Voilà. On termine sur ces bons propos. Et la prochaine fois... Alors, nous continuons notre lecture. Je rappelle donc 259-260, et puis je regarderai quand même le 201 et le 202 et le 195 sur les Juifs. Donc, je voulais signaler c'est à quel point on peut tirer Nietzsche dans des tas de sens. Et qu'il se laisse malheureusement trop souvent tirer dans ces sens-là.